Avec la revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard. Une fois de plus, la semaine commence avec les États-Unis et l'Iran qui rivalisent de déclarations belliqueuses.
Donald Trump a le doigt sur la gâchette. Téhéran se tient prête à une guerre totale. Voilà donc où l'on en est ce matin à lire les grands titres, par exemple du Times of Israel. Deux jours après ces attaques de drones qui ont endommagé deux des principaux sites pétroliers d'Arabie Saoudite. La production du brut saoudien est divisée par deux, les cours mondiaux s'envolent et voici donc revenue la rhétorique de la guerre imminente entre États-Unis et Iran. Car si les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué ces attaques samedi, leur fait d'armes n'a apparemment pas convaincu grand monde. Non, derrière, il y aurait forcément les Iraniens qui parrainent et arment les houthis depuis des années. D'ailleurs, affirme CNN, les drones utilisés par les rebelles yéménites sont fabriqués à partir d'une technologie iranienne, elle-même adaptée de drones nord-coréens. La chaîne d'info américaine explique aussi que les houthis possèdent de tels appareils depuis environ 2 ans. Ils ont déjà envoyé des dizaines de ces drones en Arabie Saoudite, sauf que jusque-là, presque tous avaient été interceptés et détruits par la défense saoudienne et les autres s'étaient écrasés d'eux-mêmes sans faire de dégâts. Ce serait donc un coup de maître qu'auraient cette fois réussi les Houthis, à moins que leur fière revendication ne cache un autre coupable. Le New York Times évoque ces images satellites diffusées hier soir par la Maison Blanche et qui semblent prouver que les drones ne sont pas venus du sud, du Yémen, mais plutôt du nord, de l'Irak ou bien de l'Iran. L'Iran, le nom, est donc lâché et Donald Trump, dans ses derniers tweets de la nuit, a eu cette formule qui laisse rêveur que l'on soit diplomate ou journaliste. Nous avons des raisons de penser que nous savons qui est le coupable, nous avons le doigt sur la gâchette, mais nous attendons tout de même une vérification de la part de l'Arabie Saoudite.
Oui, attendre une vérification avant de déclencher une guerre ouverte avec tout le Moyen-Orient, c'est vrai que c'est une sage précaution.
Et pour conforter son analyse, le président américain pourra lire le Middle East Eye, le journal en ligne plutôt proche du Qatar que de l'Arabie Saoudite. Affirme source du renseignement irakien à l'appui que ce sont bien des drones iraniens qui ont frappé samedi, mais il affirme aussi que ces drones, ils ont décollé depuis le sud de l'Irak et qu'ils étaient pilotés par des combattants chiites d'Ashd al-Shaabi, une milice irakienne soutenue par l'Iran, milice qui toujours, selon le Middle East Eye, aurait eu deux raisons d'attaquer les installations pétrolières. D'abord, envoyer à Washington un message de la part de Téhéran selon lequel les Américains ne seront jamais tranquilles dans la région tant qu'ils imposeront un blocus économique strict à l'Iran. Ensuite, se venger des attaques aux drones également qui ont été menées, cette fois par Israël, contre des positions des milices d'Ashd al-Shaabi en Syrie et en Irak cet été, des attaques israéliennes mais qui, selon la milice, auraient été dirigées et financées par l'Arabie Saoudite. Œil pour œil, dent pour dent, on est vraiment en plein dans cette guerre par proxy, par procuration, menée par groupes armés interposés, par les grandes puissances, trop grandes pour s'affronter directement. Sauf que cette fois-ci, c'est CNN qui nous le dit, les attaques contre le pétrole saoudien, quel que soit le canal par lequel elles sont passées, elles sont de nature à changer la donne. Le conflit encore contenu entre États-Unis, Arabie Saoudite et Iran prend une nouvelle ampleur depuis samedi. La température grimpe et elle devient vraiment inquiétante. Quand on pense que la semaine dernière, la presse internationale se demandait si l'éviction du faucon John Bolton allait amener la Maison Blanche à adoucir ses relations avec l'Iran, eh bien on se dit que c'est tout l'inverse qui a l'air de se préparer.
Nous nous intéressons également ce matin à l'Algérie, où l'on connaît depuis hier soir la date des prochaines élections présidentielles, Camille.
Et dans un pays secoué depuis l'hiver dernier par une véritable révolution populaire, on pourrait se réjouir de voir le peuple convoqué le 12 décembre prochain pour choisir son premier président élu de l'après Bouteflika. Pour cela, on pourrait lire par exemple le journal plutôt pro-pouvoir L'Expression et l'on se dirait avec son éditorialiste Zouir Mebarki qu'il était temps que les Algériens n'en peuvent plus de vivre sans président depuis 6 mois. 6 mois donc que, on ne va pas se mentir, l'Algérie tient debout grâce à l'armée et à présent donc tous les Algériens qui veulent le bien de leur pays s'apprêtent à aller voter le 12 décembre donc éviter le chaos pour refroidir les élans de nos ennemis et couvrir de honte les traîtres. Voilà donc pour L'Expression, déjà la carte d'électeur à la main, mais on ne va pas se mentir, le quotidien, si fier de son armée, est un peu seul avec son enthousiasme dans les kiosques algérois ce matin. Car ceux que Zouir Mebarki appelle les traîtres et les ennemis de l'Algérie, ceux qui continuent à défendre l'esprit du soulèvement populaire, ne veulent toujours pas d'une élection pilotée par les militaires. Dans Le Matin d'Algérie, par exemple, l'activiste berbère Ali Brahimi dénonce l'élection du 12 décembre comme un passage électoral forcé, une présidentielle à la hussarde qui, sitôt commise, permet permettra aux militaires de sortir ouvertement les blindés dans la rue pour en finir avec la révolution citoyenne.
Cette machine électorale est donc lancée depuis hier.
Oui, c'est la formule retenue, hein, la machine électorale retenue par le HuffPost Algérie qui nous rappelle qu'au mois de juin dernier, la présidentielle aurait déjà dû être organisée, mais elle n'avait pas pu l'être faute de candidats. Et cette fois, dans les rangs de l'opposition algérienne, l'unité dans le boycott montre déjà des fissures avec l'ancien Premier ministre Ali Benflis qui laisse entendre qu'il pourrait bien participer au scrutin. Lui aussi se retrouve accusé de traîtrise. D'ailleurs, le ton est très nerveux dans les articles que j'ai consultés ce matin à travers la presse algérienne. Le climat est particulièrement tendu. Les mots sont saturés de tensions à l'image de en fait tout le climat politique dans le pays. Tout sur l'Algérie nous en donne un bon aperçu. Hier, quelques heures avant que la date du 12 décembre pour la présidentielle ne soit annoncée, 21 jeunes qui avaient été arrêtés dans des manifestations pacifiques vendredi ont été envoyés derrière les barreaux en détention préventive. Une marche contre la présidentielle a également été réprimée à Constantine avec deux journalistes interpellés. On le voit donc, loin de calmer les esprits, l'organisation de cette élection présidentielle ravive la contestation sociale aux quatre coins du pays avec une douzaine au moins de routes coupées par des barricades, nous dit TSA qui a cette conclusion avec ce sens de la litote prononcée. Décidément, ce processus électoral censé sortir l'Algérie de la crise et lui faire retrouver la stabilité ne commence pas de la meilleure des manières.
Merci beaucoup Camille Magnard.